Chapitre 7e. Ce fut seulement quand elle se trouva dans le vestibule, reconduite rondement par la gouvernante du curé, pressée de servir son canard à point, qu'Hélène comprit combien elle avait été naïve de s'imaginer que l'abbé Well pourrait se décider à intervenir entre le vicaire et elle. Quelle affaire! Il s'en était débarrassé comme il avait pu de cette affaire qui menaçait de lui faire manger son canard refroidi. Au moins lui devait-elle de la reconnaissance pour sa franchise, car il eût pu lui répondre qu'il parlerait à son vicaire, et assurément il n'en aurait rien fait. Le courage et l'autorité lui auraient manqué pour cela. Des deux, celui qui avait le courage et l'autorité, c'était le vicaire, ce n'était pas le curé. Comment n'avait-elle pas compris cela avant cette visite, et comment le sentait-elle si bien maintenant? À vrai dire, elle en avait eu le pressentiment, mais une sorte de lâcheté l'avait empêchée de l'écouter, la peur du vicaire. Et sous l'influence de cette peur, elle avait cherché à biaiser. Maintenant il fallait aller droit, et s'adresser à celui qui avait tout fait. La gouvernante du curé lui avait refermé la porte sur les talons. Sans hésiter, mais avec une poignante émotion, Hélène alla tout de suite sonner à la porte du vicaire. Ce fut l'abbé Périchard qui vint lui-même lui ouvrir. En voyant qui se présentait, il eut un mouvement de recul, mais presque instantanément il revint en avant, et avec un visage adouci, un sourire vague sur les lèvres, il lui fit signe de la main qu'elle eut à entrer. Il la conduisit dans la salle où elle était entrée lors de sa première visite. Sur la table en bois blanc, on voyait un encrier, des plumes et des papiers. « Veuillez vous asseoir, mademoiselle. » Elle fut frappée de l'accent rauque de la voix, et comme elle levait les yeux sur lui, elle remarqua qu'il était d'une pâleur livide et que ses mains étaient agitées par un tremblement. Ils étaient assis en face l'un de l'autre, le vicaire tournant le dos à la fenêtre, elle, par conséquent, recevant le jour en face. Ils restèrent ainsi sans parler, et bien qu'Hélène tint ses yeux baissés, elle sentait ceux du vicaire sur elle. Dans le silence, elle l'entendait respirer d'un souffle haut et pressé. Plus ce silence se prolongeait, plus il devenait difficile. Hélène comprenait que c'était à elle de commencer, puisqu'elle venait demander quelque chose qu'elle devait expliquer. Mais elle ne savait comment aborder cet entretien. L'attitude du vicaire la paralysait. C'était son habitude de tenir ses yeux levés en parlant et de les fixer sur celui à qui elle s'adressait. Elle crut que si elle agissait ainsi, cela la mettrait un peu plus à l'aise. Elle regarda le vicaire. Jamais elle n'avait vu sur son visage une pareille expression de douceur et de langueur, dans ses yeux un tel trouble, de sorte qu'au lieu de se rassurer, elle fut encore plus émue. Il fallait cependant qu'elle parlât. Mais comment ne s'empressait-il point, lui, d'ordinaire si impatient? Tout au contraire, il semblait qu'il se complût dans ce silence et qu'il eut plaisir à le prolonger. Cependant, tout à coup, elle le vit changer de visage. Son front se plissa. Ses sourcils se rejoignirent et ce fut de la colère que son regard exprima. « Eh bien, mademoiselle, » dit-il durement, « j'attends. Nous n'allons pas rester ainsi, sans doute. Que voulez-vous? Pourquoi venez-vous chez moi ?» Hélène n'avait plus à hésiter. « Pour vous parler de ma grand-mère. » C'était le mot difficile à dire. Une fois partie, elle continua. « Ma grand-mère vient de m'annoncer qu'elle était obligée de me quitter, parce que sa conscience ne lui permettait pas de s'associer plus longtemps à moi dans mon œuvre. Je connais ma grand-mère. Je connais ses idées aussi bien que sa façon habituelle de s'exprimer. C'est vous dire qu'en l'entendant me parler ainsi, j'ai tout de suite compris qu'elle n'était qu'un écho, et que ce qu'elle me disait, elle le répétait. Cela n'était d'elle ni pour le fond, ni pour la forme. Mais le coup n'en fut pas moins cruel. Ma grand-mère est ma seule parente. Sans elle, je suis seule, sans amis, sans personne à aimer, sans personne qui m'aime. « Je croyais, dit le vicaire d'une voix adoucie, que vous aviez un oncle ou plutôt une tante. » Il est vrai, mais ma tante ne considère comme faisant partie de sa famille que ceux de ses parents qui sont heureux. J'ai été sa nièce, je ne le suis plus. Comme je vous l'ai dit, je n'ai que ma grand-mère. » Le vicaire ne broncha pas. Voyant qu'il ne disait rien, Hélène poursuivit. « Vous seriez l'homme que j'ai cru en arrivant à Ivrange que je ne vous tiendrais pas ce langage. Et quel homme avez-vous donc cru que j'étais ? Un homme implacable. » Et qui vous a dit que je n'étais pas cet homme? Vous. » De nouveau, la physionomie du vicaire changea et se fit brutale. « Quand vous ai-je cela, je vous prie, mademoiselle? Quand vous m'avez fait donner une tasse de tisane par la sœur Ambroisine? Vous toussiez. L'homme implacable ne s'en serait pas aperçu. Vous l'avez dit aussi dans la sablière quand vous m'avez demandé de quitter Ivranche. Je voulais prévenir ce qui arrive maintenant. Ce sont ses attentions. C'est aussi bien d'autres petites remarques que j'ai pu faire qui m'ont dit que je pouvais m'adresser à votre cœur. Il la regarda avec les yeux troublés qu'elle lui avait déjà vus, puis brusquement il se leva, s'écriant « Non, pas mon cœur, pas mon cœur, je dois vous faire partir d'ici et vous partirez. » « Contre moi tout ce que vous voudrez, je comprends que vous le fassiez, puisque vous me poursuivez comme une ennemie, mais contre ma grand-mère, non, monsieur l'abbé, vous ne ferez rien. Que je sois coupable à vos yeux, je le comprends, et cela explique, cela justifie peut-être la lutte que vous avez entreprise pour me chasser d'ici. Mais ma grand-mère, de quoi est-elle coupable? Qu'a-t-elle fait? Rien. Alors pourquoi la poursuivez-vous ainsi? Pourquoi voulez-vous la faire payer pour moi? Car elle payera, la pauvre femme. Vous sentez bien qu'elle ne trouvera pas dans un couvent ce que je peux lui donner, les soins, de l'affection, et elle a 75 ans. Si vous croyez qu'elle doit être malheureuse sans vous, que ne partez-vous avec elle? Ah, voilà donc enfin la raison de cette séparation que je cherchais sans la trouver, et que vous me dites d'un mot. C'est parce qu'on croit que je partirai moi-même, plutôt que de laisser ma grand-mère partir seule, qu'on veut nous séparer. Partez, partez! Mais je ne peux pas partir. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Maîtresse d'école je suis, maîtresse d'école je dois rester. Soyez maîtresse d'école où vous voudrez, partout, excepté ici. Mais je ne suis pas libre de choisir le poste qui me plaît. Je suis obligé de rester dans celui qu'on m'assigne. Voilà pourquoi je vous prie de ne pas m'enlever, ma grand-mère. Vous n'avez qu'un mot à dire pour rendre la paix à sa conscience. Ne le direz-vous pas? Ce n'était pas sur le ton du reproche ou de la colère qu'elle parlait, mais sur celui de la prière, en ne quittant pas le vicaire des yeux et en tâchant de faire passer en lui un peu de l'émotion qui était en elle. Pour lui, il ne parlait pas, mais les efforts qu'il faisait pour garder le silence étaient évidents, et il semblait qu'à chaque instant, il allait laisser échapper les paroles qui agitaient ses lèvres. Certainement, il était ému, profondément ému, mais il se contenait, et par moments c'était à croire qu'il appelait la colère à son secours pour ne pas faiblir. Voyant cela, Hélène se pencha en avant et attacha ses yeux sur ceux de l'abbé Périchard. Elle joignit les mains. « La dernière fois que nous nous sommes vus, vous avez bien voulu me dire que vous me priez. Monsieur l'abbé, je vous supplie à main jointe d'avoir pitié de nous. Sur moi, vous frapperez, si vous le jugez bon, mais ne m'enlevez pas ma pauvre grand-mère, ne l'enlevez pas, je vous en conjure, à mon affection, à ma tendresse. »« Ah, ne parlez pas de tendresse !» s'écria-t-il en se levant. « Et pourquoi n'en parlerai-je pas ? Parce que ce mot me bouleverse. » Vous voyez bien qu'il me fait perdre la raison, vous voyez bien qu'il me rend fou. » Il était devant elle, transfiguré, tremblant des pieds à la tête, les yeux pleins de flammes. Il fit un pas en avant et se penchant vers elle. « Parlez de ma haine, nous pourrons nous entendre. Mais je n'ai pas cette haine, alors croyez à mon amour. » Elle jeta ses deux mains en avant. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle éperdue. Mais vous n'avez donc pas compris que cette haine dont je vous ai poursuivi n'avait d'autre but que d'étouffer le sentiment qui me poussait irrésistiblement vers vous, qui me dominait, malgré tout, qui me domptait et qui m'arrache cet aveu. Comprenez-vous maintenant la guerre que je vous ai faite et les supplications que je vous ai adressées pour que vous partiez, pour votre repos, pour le mien, pour votre salut, pour le mien? Vous n'avez pas voulu comprendre. Vous n'avez pas voulu voir, vous n'avez pas voulu partir. Eh bien maintenant, il est trop tard, j'ai parlé. Ce secret abominable que je voulais vous cacher et que je voulais me cacher à moi-même, je l'ai dit. Et vous ne partirez pas, puisque je vous aime, je vous aime, je vous aime. » Au premier mot, elle avait voulu reculer. Mais tandis qu'elle était assise, il était debout, penché sur elle, l'enveloppant presque de ses deux bras, et elle avait dû l'écouter quand même. Cependant, comme en prononçant ces derniers mots, il s'était redressé dans un mouvement d'exaltation, elle avait pu se lever, alors se jetant en arrière. « Vous ? » s'écria-t-elle. « Vous, un prêtre ? Un malheureux ! » Ils restèrent en face l'un de l'autre, séparés par une assez grande distance. Sans que le vicaire fît un pas pour se rapprocher d'elle, il laissa tomber ses deux mains, puis sa tête s'inclina en avant, son dos se voûta, il parut vacillant sur ses jambes. « Je vous fais horreur ! » balbutia-t-il. « Non, horreur, pitié. Redressant la tête, il la regarda et Hélène crut voir la mort dans ses yeux. « Je vous regarde pour la dernière fois, » dit-il, « partez. » Elle se dirigea vers la porte. « Non, » s'écria-t-il, « pas encore, ne partez pas !» Mais elle ne s'arrêta pas et elle mit la main sur la serrure. Comme elle allait l'ouvrir, un bruit lourd retentit sur le carreau, celui d'un corps qui tombe. Elle se retourna. L'abbé Périchard s'était jeté à genoux et il tendait ses deux mains suppliantes vers la Madone posée sur la cheminée.